Chapitre 78. Vincent n'aura pas réussi à dormir au-delà des premiers rayons de l'aube. Au petit matin, sortant de sa roulotte, il n'a rencontré que Victor, le géant qui semble veiller jour et nuit. Un calme absolu règne sur le camp. La troupe bigarrée est déjà repartie pour la capitale, dont elle animera les rues plus tard dans la matinée. Sur la prairie encore constellée de rosées, les lapins forment un cercle, vite dispersé par deux chiens errants. La rivière coule paisiblement en contrebas. Le gardien des ambassades a salué Cavel, qui s'est isolé au sommet d'un talus voisin. Assis sur un rondin, Vincent s'est adossé au tronc d'un arbre. Il garde un œil sur le camp, tout en se réchauffant au premier soleil. C'est là qu'il analyse chaque ligne des carnets sur lesquels il s'est déjà endormi d'épuisement la veille. Page après page, bien des choses le fascinent. Il a entre les mains toutes les informations que Jean-Eugène Robert-Houdin considérait comme les plus importantes. Ce dernier ne se séparait jamais de son carnet et y couchait tout ce qu'il jugeait essentiel. Mais Vincent a également l'impression de s'immiscer aux plus intimes des pensées de son modèle. Ses remarques et annotations témoignent de sa façon de réfléchir. C'est une véritable plongée dans les rouages de son intelligence. Chaque note, qu'elle soit complète ou interrompue, renvoyée ou amendée, témoigne des moindres soubresauts de l'esprit de son maître. Le style est direct, sans aucune fioriture, avec pour seul objectif de faire progresser son raisonnement et de fixer ses pensées. L'ensemble est si spontané que parfois Vincent a l'impression d'entendre la voix du magicien. Certaines saillies ou commentaires laconiques n'ont à l'évidence de sens que pour leur auteur, et cependant, le plus souvent, Cavel a l'impression que les lignes ont été rédigées à l'intention d'un tiers. Robert-Houdin destinait-il cet héritage intime à quelqu'un en particulier? Le nom de Charles s'impose à l'esprit de Vincent, mais l'espace d'un instant, il se prend à rêver que son maître ait pu envisager de lui transmettre tout cela. Oui, à lui, le petit apprenti. Face au génie de Robert-Houdin, c'est en effet ainsi que Vincent se définit toujours, un apprenti. En est-il digne aujourd'hui? Vincent a lui aussi toujours consigné ses réflexions et ses croquis dans un carnet. Sans doute doit-il cette habitude à son aîné. Il n'a pour le moment pas même rempli son premier volume. Un jour, peut-être, lorsqu'il sera plus âgé, s'il parvient à vivre jusqu'à avoir des cheveux blancs, aura-t-il également noirci 3 tomes, ou même davantage. Chaque page apporte son lot de surprises et exige de lui la plus grande attention. La seule logique des recueils étant chronologique. Jean-Eugène Robert-Houdin a commencé sensiblement au même âge que Vincent, et a poursuivi jusqu'à la fin. Sa dernière note date de quelques jours seulement avant sa mort. C'est par celle-là que Cavel a commencé sa lecture. Robert-Houdin ne devait pas se douter de l'imminence de sa mort, car il évoque simplement un futur voyage et 2 inventions à modifier. Dans les paragraphes consacrés aux études préparatoires pour des passages secrets, il est régulièrement fait mention d'Étienne Bégel. Consulter Étienne pour vérifier la faisabilité d'un mécanisme réversible. Demander conseil à Bégel pour le métal à employer. Pour chaque projet, un rapide croquis expose les grandes lignes du fonctionnement et le procédé d'ouverture. En marge, 4 ou 5 petites croix sont tracées. Les installations qui n'en comportent que 3 sont rayées d'un trait que l'on sent parfois rageur. Vincent n'a pas été long à comprendre que ces croix sont des évaluations permettant à Robert-Houdin de vérifier que son idée coche bien chacun des 5 principes qui régissent les meilleurs passages dérobés. Il n'a visiblement mis en fabrication que ceux qui le satisfaisaient pleinement. Encore une preuve de son exigence absolue. La page d'après aborde, sans condition, les affaires courantes du cercle de recherche auquel il appartenait, comme Addison aujourd'hui. Robert-Houdin y évoque des réunions. Aucun nom n'est jamais mentionné. Chaque intervenant n'est décrit que par sa fonction. Il est ainsi question, entre autres, de l'archiviste, de l'enquêteur, du physicien, de l'architecte, du mathématicien, du théologien, de l'historien et à plusieurs reprises de l'avocat du diable. Cette dernière dénomination intrigue Vincent. À travers les divers dossiers évoqués, ce sont plus d'une trentaine de trésors qui ont été retrouvés et soustraits au pillage ou à la destruction. Emblèmes de pouvoirs oubliés, reliques, textes précieux et, bien sûr, richesses sous forme d'or ou de pierres d'exception ont ainsi été mises à l'abri. Quelques passages mentionnent cependant des énigmes restées sans réponse, dont l'une, à laquelle le cercle de recherche a finalement renoncé, rappelle les difficultés qu'a éprouvées Vincent pour ouvrir le tunnel de la cave de Flamel. Il y est question d'un armateur mystérieusement disparu en Méditerranée, dont la résidence aux murs trop épais recelait des espaces secrets. Il fut cependant impossible d'en découvrir l'entrée. Dans ce florilège éclectique d'énigmes, de projets et d'interrogations, il arrive même que Robert Houdin se soit intéressé à des faits historiques ou des faits divers étranges derrière lesquels il soupçonnait un mystère, comme le cas de ce journaliste assassiné après avoir annoncé un prochain article à sensation sur un trafic de fausses momies égyptiennes. L'ombre qui masque tout à coup le soleil arrache Vincent à sa concentration. De bon matin à l'étude et déjà l'air soucieux. Il n'a pas entendu Gabriel approcher. À contre-jour, ses longs cheveux filtrent superbement la lumière. Une sainte magnifiée dans l'aura d'un vitrail. Cavell referme le carnet. « Je tombe mal ?» demande la jeune femme. « Jamais, mais je note que, même en terrain dégagé, vous parvenez à surgir d'un coup. Vous avez un talent. » Elle rit et s'emplit les poumons d'air frais en s'étirant. « Hier soir, je vous ai écouté échanger avec vos amis. Je n'ai pas voulu m'immiscer, mais je me suis étonné qu'aucun ne vous pose une question qui me paraît évidente. Laquelle ?»« Depuis l'incendie, êtes-vous parvenu à reprendre le contrôle de la situation ?» La jeune femme fait un pas de côté. La lumière vient cette fois découper son profil, le nez droit, la pommette haute, l'œil clair comme un ciel de printemps. Sa jeunesse, sa beauté et l'énergie que Vincent saisit dans toute sa personne sont autant d'hymnes à la vie. Il ne se sent pas le droit de les ternir avec des problèmes auxquels la jeune femme ne pourra malheureusement rien changer. Trop tôt pour le dire. Et vous, vous accommodez-vous de ces conditions ? L'endroit est tellement peu ordinaire que j'en arrive à oublier tout ce qui existe ailleurs. Comment va Pierre ? Il s'inquiète de ne pas vous voir assez et se demande de quoi l'avenir sera fait. Nous en sommes tous là, pas vous. J'ai consulté des diseuses de bonne aventure et des tireuses de cartes. Elles sont plusieurs à venir chaque soir. Que vous ont-elles prédit ? Chaque fois, des choses très différentes, tout et son contraire à tel point que cela ne veut plus rien dire. Elle m'annonce l'amour, des enfants joufflus et souvent la fortune, mais aucune n'a parlé de danger de mort. Ne trouvez-vous pas cela étonnant ? Après son expérience face aux jumeaux, Vincent ne se risquera pas à commenter les oracles, spirites ou prophéties. Il n'a plus réellement de certitude à ce sujet. Si elle se borne à vous promettre le bonheur, vous devriez les croire. Ils sourient ensemble. Vincent désigne le camp d'un mouvement du menton. J'ai appris que pour libérer une roulotte, vous et Pierre occupiez désormais la même. Gabriel rougit. Pierre se comporte de façon tout à fait honorable. Je n'en doute pas. Il fait travailler Henri, à qui un brocanteur a rapporté des livres d'études, des plumes et un cahier, et même un exemplaire de l'île mystérieuse. Comprenant que Gabriel cherche à éviter de parler de sa liaison avec Pierre, Vincent vient à son aide en changeant de sujet. On m'a dit que Stasio avait fait passer un message rassurant et qu'il serait de retour dans quelques jours. La jeune femme hoche la tête. Bien qu'ils soient enchantés de se retrouver, tous deux se contentent d'alimenter une conversation réduite aux utilités. Mais peu à peu, autre chose s'installe. Est-ce parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils se fixent avec de plus en plus d'intensité ? Bientôt, ils ne parviennent plus à détacher leurs regards l'un de l'autre. N'y tenant plus, Vincent demande : Pardon, mais je dois savoir, entre vous et Pierre, c'est sérieux ? La jeune femme baisse les yeux. Je crois que oui. Je préfère vous l'avouer. Notre bonheur lui donne mauvaise conscience alors qu'il sait que rien n'est résolu et que vous êtes en première ligne. Rassurez-le. Vous savoir heureux ensemble m'aide bien plus que s'il était écrasé sous la charge avec moi. Gabrielle n'ose pas le regarder en face, mais elle doit lui poser la question. Vous allez vous en sortir ? Je l'espère. Quand vous n'êtes pas là, avoue-t-elle, ce n'est pas pareil. On est tous un peu perdus. Pierre et moi parlons beaucoup de vous. Nous arrivons à occuper Henri, mais Conrad est taciturne. Vous me manquez aussi beaucoup. À l'horizon, une traînée de poussière attire l'attention de Vincent. Un cavalier approche, lancé au galop. Peut-être ne fera-t-il que passer pour continuer son chemin vers l'ouest, mais son instinct lui souffle autre chose. Vincent distingue de mieux en mieux l'homme qui mène sa monture à bride abattue. Il porte un long manteau de cocher et leur chapeau caractéristique. Cavel se redresse, les yeux fixés sur le nouvel arrivant. Gabriel l'aperçoit à son tour. Allez-vous déjà devoir repartir ? Possible. Le cocher s'engage dans le camp et remonte entre les tables en ralentissant à peine, juste le temps de héler au passage Victor, qui lui indique du doigt leur direction. Arrivé au pied du talus, le cavalier saute de son cheval et grimpe jusqu'au sommet. Le visage poussiéreux, il s'essuie le front du bras et déclare essoufflé « Monsieur Dinson m'envoie vous chercher. » « Que se passe-t-il ? » L'homme jette un œil vers Gabriel. « Vous pouvez parler, » le rassure Cavel. « Des hommes font des travaux dans la maison de la rue de Montmorency, et ils s'activent aussi autour de la bouche d'égout par laquelle vous êtes descendu l'autre soir. » Vincent bondit sur ses pieds. « Crénom, ils vont essayer de forcer le tunnel. » « Je dois vous ramener à Paris de toute urgence. » Vincent se tourne vers la jeune femme et lui saisit les mains avec douceur. « Il faut que je parte, Gabriel. Mais avant, j'ai besoin de vous demander votre aide. Si je peux saluer mon frère et mes amis, sans les alarmer, dites-leur que je n'ai pas pu rester, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils continuent à vivre. Prenez soin de ma famille comme vous le faisiez dans notre maison. Vous avez aussi ce talent-là. Votre drôle de famille. Vous en faites désormais partie. Comptez sur moi. » Il brûle de prendre la jeune femme dans ses bras, mais se ravise. Dites à Pierre que je reviens toujours. Vincent ramasse les carnets et dévale le talus en compagnie du messager. L'homme grimpe prestement en selle et l'aide à monter en croupe. Vincent adresse un signe à Gabriel, qui le regarde s'éloigner jusqu'à ce que les deux hommes se confondent avec la poussière qu'ils soulèvent.